J'essaie de dessiner ce que je vois. Je vois moi.
Ils n'ont pas de feuilles.
L'oiseau.
Elle a dessiné des arbres et elle a gâché tout le monde dessiné des arbres.
Vue du large, une série d'émissions proposées par Grenouille et Marseille-Provence 2013 autour du travail des quartiers créatifs. Les quartiers créatifs, rappelons-le, ce sont des projets artistiques portés par la capitale culturelle au cours desquels des artistes sont invités en résidence dans des quartiers en pleine mutation urbaine pour y produire des œuvres réalisées avec la participation de leurs habitants. Et une troisième émission Vue du large, enregistrée en public au J1 ce dimanche 12 mai 2013, pour continuer à donner la parole aux artistes et leur permettre d'échanger expériences et questionnements sur les réalités auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur travail. Après avoir successivement abordé la temporalité des projets, puis la question de l'espace, de la ville comme matière première de l'œuvre, c'est la question des représentations qui traversera probablement notre discussion aujourd'hui. Comment se représente-t-on la ville, le quartier? Comment les habitants se représentent les artistes? Et réciproquement, et comment ce jeu de représentation croisé tient à la fois du réel et de la fiction? Quatre quartiers créatifs sur ce plateau aujourd'hui pour en témoigner, avec la présence de Martine Derain, qui développe dans la cité de l'Abeille à La Ciotat, un projet aux multiples ramifications, mais dont le volet de production cinématographique est probablement le plus étonnant. J.R., qui après Vevey en Suisse et Grottalier en Italie, est en train de développer à Marseille, à la Belle de Mai, une nouvelle dimension de son projet Unframed, à partir des archives photographiques des habitants du quartier. Hervé Lelardoux, qui à Aubagne, avec la compagnie L'Arpenteur, donne une série de rendez-vous dans la ville invisible, dont le tracé du tramway serait l'indice, la trace tangible. Et puis Stéphane Chanclan, dont la foi en son projet parc est immense, puisqu'elle déplace les montagnes, ou du moins les rochers, dans le quartier des Hauts-de-Mazargues, à Marseille. Bonjour Stéphane. Tu es plasticien, tu conçois et tu réalises des projets intégrés au processus de transformation à l'œuvre, dans des contextes le plus souvent urbains. Des projets conformes à une démarche que tu nommes, non sans une certaine ironie d'ailleurs, HQAC, haute qualité artistique et culturelle. Alors Stéphane, ce rocher dont nous parlions, il est dit la pierre tombée. C'est un bloc de calcaire de 5 mètres de haut et il se trouve quelque part dans les collines autour de la cité. Et en fait, tu ne le déplaces pas, mais tu le répliques dans le cadre d'un chantier de construction participatif qui aura lieu très bientôt, du 21 mai au 6 juin, pour faire retomber cette pierre sur le rond-point du plan de la Jarre. Deux pierres identiques, l'une secrète, l'autre sociable et exposée. On en parle dans un instant, mais je te propose qu'on écoute d'abord un bout de son enregistré à Mazargues en février dernier.
Donc, je m'appelle Barbara Chabazian, je travaille pour les Robins des Villes qui font en fait la médiation sur le projet Parc. C'est une structure en fait qui travaille sur le terrain des Hauts-de-Mazargues parce qu'elle est, elle fait la concertation et donc elle a un pied dans le, sur ce territoire-là. Comme les artistes ne sont pas toujours présents, ça permet de rester en contact avec les différents partenariats qui se font avec les acteurs locaux. Alors ben, par rapport à la concertation, en fait, c'est difficile de mobiliser les habitants. Enfin, on essaye autant qu'on peut, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a d'autres problématiques qui touchent en fait plus les gens que la question des espaces publics. Et par rapport à la transformation du quartier, ben, c'est vrai que ça va être, il va être bien modifié, mais c'est pas, je pense que ça peut être positif. C'est un quartier avec beaucoup de potentiel. Et ce qui est difficile, c'est qu'il n'est pas forcément homogène. Mais il faut que les gens puissent se l'approprier aussi, en fait, qu'ils ne se sentent pas rejetés par ce processus-là et qu'ils viennent s'interroger et voir comment ça va se passer, la place qu'eux peuvent y avoir.
Comment est-ce que tu perçois, toi, le projet Parc? Il est le bienvenu?
C'est la grande question. Mais en fait, en ce moment, il y a, voilà, les gens se questionnent beaucoup sur le pérenne et l'éphémère. Donc, pourquoi faire quelque chose d'éphémère alors qu'on pourrait faire du pérenne? Mais pour les artistes, en fait, ce qui est important, c'est vraiment la démarche qui peut être menée. Et je pense que par rapport à ça, ils sont très, ils ont une très bonne démarche en fait. Alors après, c'est vrai que du coup, Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, c'est aussi une grosse opération culturelle. Enfin, dans le sens où voilà, je pense que les habitants, ils ont beaucoup d'attentes par rapport à tout ça, mais et donc ils peuvent être déçus parce qu'ils attendent tellement à aller à la rencontre des artistes qui sont très ouverts dans leur démarche et qui essayent de créer du lien autant que possible avec les habitants et ils sont dans la proximité quand même.
On écoutait Barbara Chabazian des Robins des Villes. Alors on voit comment les habitants se représentent le projet, ce projet parc, et notamment avec leurs questionnements sur la pérennité. Mais Stéphane, de ton côté, comment est-ce que tu te représentais ces quartiers de la Caillole et des Hauts de Mazargues quand tu as commencé ce projet?
Mais je crois qu'une des premières choses qui était claire, c'est que je ne comprenais rien à ce quartier. C'est-à-dire que les expériences d'autres villes, que ce soit Paris, Berlin, Londres ou ailleurs, ne servaient à rien dans le décodage de où j'étais. Et que quasiment toutes les personnes à qui je posais la question « Mais comment est-ce qu'on vit ici? Qu'est-ce qui est l'endroit le plus important pour vous? Où est-ce que vous vous retrouvez ?» etc. etc. À chaque fois, on avait des réponses qui étaient très très différentes. Et ça devenait juste des fragments qui s'accumulaient avec aucune vision globale de où on était, pourquoi la ville était telle qu'elle était ici aujourd'hui, pourquoi la vie était telle qu'elle était là aujourd'hui. Et en fait, ça a été, je pense, le premier travail, c'était de réaliser que je n'avais pas, et que nous, les autres artistes avec lesquels je travaillais, nous n'arrivions pas à avoir une représentation de où nous étions, et du coup, encore moins de qu'est-ce qu'on allait y faire. Et je crois que la première année de travail, ça a été progressivement de se créer une représentation qu'on a appelée parc. Parc, ça peut être les initiales de pratique artistique réalité complexe, PARC, comme ça pouvait être aussi un espèce de concept qui permettait d'unifier à travers un certain nombre de caractéristiques un territoire qui est complètement fragmenté, disjoint, avec plein d'éléments isolés comme ça. Et donc parc a été pour nous la première création, c'est-à-dire un concept qui nous permet de nous sentir dans un lieu qui a une cohérence, même si ce n'est pas celle qu'on a l'habitude d'avoir.
Alors comment on passe de cette représentation initiale d'un quartier, ou plutôt de cette non-représentation, de cette difficulté à se le représenter, à un abord et à une compréhension des enjeux de ce territoire? Ça passe, j'imagine, par arpenter ce quartier. Peut-être que ça passe aussi par y dresser des cartes. Finalement, la carte, c'est peut-être la première représentation un peu réelle ou réaliste qu'on se fait de ce quartier, des cartes peut-être réalisées avec ton complice Boris Sievert.
Alors on a fait plein de cartes, c'est vrai, c'est autant des fois des sortes de cartes inventaires, donc l'inventaire de tous les rochers remarquables qu'on a pu trouver, l'inventaire de toutes les voitures roulantes et calcinées qui nous ont marquées, l'inventaire de toutes les architectures remarquables et moins remarquables, etc., etc., comme une façon d'inventorier son territoire pour pouvoir se dire, ben voilà, on est ici, on est dans cette situation où il y a l'ensemble de ces choses-là. Mais après, la carte, c'est déjà un exercice de synthèse énorme. C'est celui de rassembler des données historiques, des données géographiques, des rencontres aléatoires, des projets, tout ça sur une feuille de papier en deux dimensions. En fait, voilà, donc on a mis à peu près 18 mois à sortir nos premières cartes. Et d'ailleurs, dans un journal qui va sortir prochainement, Esprit de Babel, qui traite justement de différentes représentations de ce quartier, un des apports principaux a été celui de réaliser des cartes.
Alors après un long temps d'observation, de rencontres, d'interventions, de chantiers de moindre importance que celui que tu présentes maintenant, mais néanmoins important quand même, et puis surtout de discussions avec les habitants, naît cette idée de la pierre tombée. Alors pourquoi une sculpture monumentale sur le modèle d'une pierre, qui est une sorte de menhir urbain, une pierre qui, comme le relève la revue de l'Esprit de Babel, qui te consacre son numéro 8 à venir très prochainement, comme tu le signalais à l'instant, une pierre qui à la fois cristallise les légendes urbaines et en même temps qui balise, il faut bien le dire, une sorte de hors-monde, un territoire un peu hors la loi où se passent toutes sortes d'activités, pas forcément très orthodoxes. Et ce totem, ce signal d'un monde en marge, tu le réinstalles au cœur de la cité. Comment c'est venu ?
C'est un petit peu un moment pas magique, mais en tous les cas qui est typique de ce type de pratique artistique où on peut chercher pendant longtemps, j'ai cherché pendant longtemps, mais qu'est-ce qu'on va faire ici ? Quelle va être l'architecture, l'objet, le signe ou l'événement qui va faire sens ici ? Sans vraiment arriver à en trouver un. Et du coup, ce qui s'est développé en parallèle de ça, ça a été plutôt un projet monumental qui est celui de faire 101 propositions pour le passé, le présent et l'avenir de ce quartier. Donc c'était plutôt là-dessus qu'on a été. Et puis à un moment, il y a eu cette rencontre avec cette pierre tombée dont les habitants nous avaient parlé. C'était pas clair si c'était plus un objet mythique, fictif, ou si c'était quelque chose qui existait réellement. Et tout d'un coup, il y a une espèce d'un ensemble d'enjeux qui se sont cristallisés autour de cet objet-là. C'était à la fois quelque chose qui avait toutes les caractéristiques d'une sculpture, au sens presque classique, moderniste. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui existe dans le souvenir, dans l'imaginaire, dans la nostalgie des habitants, pour qui, c'est à chaque fois qu'on parle de la pierre tombée, c'est mon enfance, quand j'allais y jouer, quand il y avait le camp de l'aréna qui était là, quand la ville n'était pas comme elle était, quand les piscines n'étaient, etc., etc. Donc c'est tout un pan de la mémoire et de l'histoire qui est rattaché à ça. Et puis après, on s'est rendu compte aussi qu'autour de cette pierre tombée, il y avait tout un ensemble d'activités plutôt illicites qui avaient lieu et qu'on était vraiment face à une sorte de hors-champ de la ville. On est à 300 mètres de la ville, mais s'y passent toutes les choses qui ne peuvent plus ou pas se passer dans la ville.
Et ce hors-champ, tu l'installes sur la place publique.
Et voilà, à un moment, c'est de se dire que peut-être le fait de faire un chantier auquel vont participer un ensemble de personnes professionnel, amateur, habitant, qui est celui de reproduire cet objet, donc vraiment d'aller sur place, le remouler, le transporter, le déplacer, le reconstruire à échelle 1 au milieu d'un espace public, ça va forcément provoquer tout un ensemble de questions sur mais qu'est-ce que c'est qu'une pratique artistique, qu'est-ce qui fait patrimoine ici, qu'est-ce que c'est qu'un espace public, etc. etc. Et donc le chantier, c'est le moment où tout ça va être discuté sans en avoir l'air.
On l'évoquait dans le petit son que j'ai diffusé au départ de cette émission où Barbara Chabazian des Robins des Villes évoquait que les habitants se posaient beaucoup le questionnement de la pérennité des œuvres. Alors cette nouvelle pierre tombée, elle est destinée à rester pour quelques millénaires comme sa sœur en quelque sorte, ou bien peut-être moins longtemps.
Il y avait une sorte de situation dont on n'arrivait pas à sortir, qui était celle de à la fois un refus localement de voir des artistes étrangers imposer une œuvre pérenne pour le quartier, une impossibilité du point de vue de nos commanditaires de leur dire « bon, ben, nous ne ferons rien », et le paradoxe étant faire quelque chose de temporaire suscite tout un tas de remarques du type « tout ça pour ça ». Donc autant d'argent pour quelque chose qui ne va pas durer. Et donc la réponse à ça était de se dire « on va faire des choses ». Du 21 mai au 20 juin, on va faire tout un ensemble de choses, dont notamment ce chantier de production de cette pierre tombée, mais qui sont en fait prétextes à faire que des gens se rencontrent à travers un travail qui est l'occasion de manger ensemble pendant un mois et de mettre en discussion 101 propositions qu'on a envie de faire pour le quartier. Et donc on est à la fois dans quelque chose de complètement éphémère, ces 101 propositions ne resteront pas en dur, mais en même temps, parce qu'elles seront discutées, elles ont un avenir possible. Et donc c'est ça un peu l'histoire, c'est de faire un monument qui est plus celui d'un chantier, de repas, de discussion, parce que ça laissera peut-être plus de traces que si on faisait un objet.
De l'architecture au théâtre, Hervé Le Lardoux, travailler à une œuvre qui fait écho à l'imaginaire collectif des habitants, ça doit te sembler assez familier finalement comme démarche. On reparlera dans un instant de ton projet à Aubagne, mais sur cette matière que constitue l'imaginaire collectif pour un artiste, Hervé Le Lardoux.
Oui, dans le projet Aubagne, effectivement, le point de départ, eh bien, l'imaginaire collectif, ou plutôt l'arrivée, ça serait l'imaginaire collectif, parce que le point de départ, ça serait plutôt l'imaginaire subjectif et individuel. Voilà, le travail qu'on mène à Aubagne, c'est vraiment des rencontres avec des gens, mais des rencontres individuelles, on pourrait dire, c'est-à-dire donner la parole à de nombreuses personnes. Et de les amener à exprimer quelque chose dont on va parler peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de... Sur Aubagne, le projet est un peu différent des autres quartiers créatifs. On n'est pas focalisé sur un quartier précis, mais sur le projet urbanistique qui, disons, a amené notre venue à Aubagne. C'est le projet de l'installation et l'inauguration d'un tramway en 2014 à Aubagne. Donc c'est un projet urbain énorme, qui est en chantier actuellement et qui va donc traverser la ville, en fait. Donc notre entrée dans Aubagne, nous, c'est le tramway. Et donc c'est une ligne, en fait, un tracé qui traverse absolument toute la ville. Et donc on a mené un travail sur ce tracé-là, à la rencontre des gens tout le long du tracé.
Et sur l'imaginaire, probablement, que ce tracé suscite avant qu'il ne soit effectivement construit. Pour conclure, à propos des Hauts-de-Mazargues, un prochain chantier, Stéphane, je le disais, du 21 mai au 6 juin, une inauguration qui est déjà programmée, Stéphane Chanclan.
Une inauguration, oui, on a un week-end dit d'inauguration qui se déroulera donc du 7 juin au 9 juin. Et puis en fait, on va être sur place, c'est-à-dire les quatre artistes avec qui on travaille sur ce projet parc.
Tu peux peut-être citer à l'occasion...
qui sont Boris Sieverts, qui est un artiste marcheur de Cologne, Eric Gungrich, qui est un plasticien architecte de Berlin, et Benjamin Förster-Baldenius du collectif Raum Labor Berlin, qui est architecte. Et donc nous serons sur place du 7 juin au 16 juin pour rencontrer tous ceux qui veulent avec nous construire, manger et échanger sur nos 101 propositions.
Rendez-vous est pris donc, vous écoutez toujours Vue du Large sur la Grenouille, enregistré ce dimanche 12 mai au J1 et en public. J.R., quelques mots sur le projet Unframed, le temps que je rappelle que tu es un artiste et activiste urbain, que c'est sur les murs des villes que tu aimes à exposer tes photographies, souvent en très grand format, et pour des expositions qui flirtent parfois avec la légalité. On se souvient par exemple de Face to Face, une série de portraits d'Israéliens et de Palestiniens que tu avais installés de part et d'autre du mur de sécurité ou de la honte, selon les points de vue qui les séparent. Alors avec Unframed, c'est à partir d'images personnelles tirées de leurs archives familiales par les habitants que tu travailles. Comment ça se passe concrètement, cette rencontre avec les habitants, J.R.?
Ça fait un an qu'on travaille avec la Friche et différentes associations et même avec les archives de la ville. Et en fait, c'était juste l'idée de demander aux gens quelles photos, si on demande à quelqu'un l'histoire de son quartier et les photos qui lui parlent. Dans un quartier comme la Belle de Mai, par exemple, il y a soit des personnes qui vont vous dire « à l'époque, il y avait une usine d'allumettes, à l'époque, il y a eu tel ou tel événement », mais qui n'ont pas ces images, mais par contre, on les a retrouvées dans les archives de la ville. Il y a d'autres personnes qui vous disent moi j'ai grandi là, voilà des photos de moi, j'étais marin ou je faisais tel ou tel boulot ou j'ai travaillé dans cette usine et qui ont partagé, qui sont venus vraiment amener leurs photos de classe, leurs photos, des photos très personnelles. Et puis ensuite il y a les photos des gens qui ont immigré là et qui sont venus avec leurs images, peut-être des fois avec une photo des gens qui sont arrivés clandestinement et qui ont amené une image avec eux, la photo de leur famille, la photo d'un parent et qui l'ont confié. Et c'est quelque chose d'assez personnel parce que ça veut dire qu'ils ont envie de l'avoir de l'avoir sur les murs puisqu'on va l'agrandir et ils ont envie de l'avoir sur les murs de la ville, ce qui est quand même une confiance et un partage assez fort. Là aujourd'hui on est en train de coller, et je dois y retourner juste après d'ailleurs, les grands-parents d'une fille qui s'appelle Aramata qui a 19 ans et ses grands-parents, cette photo a été prise en 1973 au Mali et elle avait vraiment envie, c'est la photo, elle est toute pliée, on a dû la scanner, elle est très abîmée, mais elle avait envie de partager cette photo. Par contre pour ses parents ses parents ne comprenaient pas pourquoi d'un coup leurs parents allaient se retrouver sur les murs, et donc ça a été cette discussion entre elle et ses parents et qui a finalement mené à leur autorisation pour le faire.
Et comment ces habitants se sont-ils représentés, JR ? Artiste international, tu arrives à l'instant de New York, tu es un peu une star. Comment est-ce qu'ils se sont représentés, ce personnage, JR, ces habitants de la Belle de Mai ?
Non, je crois que la plupart des gens avec qui j'ai parlé connaissaient pas du tout mon travail et donc me demandaient ce que je voulais faire. Je leur ai expliqué que voilà, m'était arrivé dans ma vie d'avoir fait des portraits de gens, de les avoir recollés, d'avoir laissé des gens faire des portraits et les coller eux-mêmes. Mais là, je leur demandais de faire aucune photo, mais juste de partager une image qui leur était symbolique. Et donc, c'est finalement, moi, je la mets juste en situation, dans leur quartier, sur un mur. Je leur demande leur avis, si elle leur plaît sur tel mur ou pas.
Un dialogue. Tu la recadres parfois ?
Oui.
Tu prends un détail d'une image.
Exactement. C'est vraiment un projet où l'immeuble, l'architecture va dicter le cadre de l'image. Alors, pour les habitants, comme ça les gêne pas. Quand je l'avais fait avec des images à Vevey, comme vous citiez au début, en Suisse, c'était des images de Man Ray ou d'autres photographes. Là, il y avait une vraie question sur est-ce que j'ai le droit ou pas de recadrer des images qui ont marqué l'histoire de la photographie. Pour moi, c'est de la matière, c'est comme des pots de peinture, donc c'est la manière dont je l'entreprends.
L'imaginaire collectif, là en l'occurrence le souvenir d'une collectivité, c'est une réalité sociologique. Est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est un récit de la réalité sociologique du quartier de la Belle de Mai que tu montres, ou est-ce que c'est une représentation un peu fictionnée de cette réalité ?
Je pense que on a essayé d'impliquer tout type de personnes et par exemple il y a un monsieur qui a 70 ans à peu près qui a donné sa photo de classe où dedans on voit une trentaine de gamins dont un enfant noir et donc il est là tout seul au milieu de la photo et on est en train de la recoller et à l'école de la Belle de Mai pour le coup. C'est aujourd'hui, ils ont retrouvé des photos, ils ont fait un truc super, ils ont retrouvé des photos dans la cour prise dans les années 40 d'un groupe de filles en train de danser, d'un groupe de gamins en train de jouer au bandit. Ils ont remimé cette photo avec des gamins de l'école 70 ans plus tard et forcément c'est plus les mêmes populations qui occupent cette école et c'est intéressant parce que il y a un vrai dialogue. On va les coller d'ailleurs demain devant l'école avec les enfants, puisque c'est un mur qui n'est pas très haut. Et ça montre l'évolution d'un quartier, les différentes ethnies. Je pense aussi une manière. Là, on a collé une porte d'Alger hier, la porte du Sud qui n'existe plus. C'est une femme qui avait immigré en France et qui avait choisi cette photo dans les archives de la ville parce qu'elle lui rappelle son chez-elle. Mais à la fois, elle le fait découvrir aux autres habitants du quartier qui viennent et qui disent « Qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette porte ? J'ai jamais été en Algérie. » Et il y a cet échange entre la nostalgie d'un avec la découverte de l'autre, avec cette mixité, un quartier qui change. C'est intéressant, ça sera intéressant de voir aussi comment ces images vieillissent avec le temps et avec le quartier.
Alors, je le disais tout à l'heure en présentant ton travail, tu aimes à travailler en très grand format. Et est-ce qu'il te semble que l'échelle d'une ville, pour une œuvre, pour y installer une œuvre, c'est toujours le très grand format. Est-ce que c'est forcément le cas, JR ?
Non, je crois que c'est l'architecture qui dicte le format. Quand j'ai recouvert les favelas au Brésil, ce n'était pas des tirages si gigantesques. C'est juste que les maisons font qu'un étage sur la colline. Et quand on en remplit toute une série, on a l'impression que c'est gigantesque, effectivement, mais pourtant, c'est des petites maisons, c'est des petits murs de 3-4 mètres de haut. Je ne suis pas dans cette recherche du gigantesque, mais juste d'adapter une image à l'architecture pour qu'elle prenne sens dans la ville, pour qu'elle s'inscrive et pour que, forcément, elle vienne créer un choc, comme c'est du noir et blanc, avec le reste des visuels, souvent la publicité.
D'ailleurs, le collage que tu es en train de réaliser en ce moment à la Belle de Mai, ce n'est pas des très grands formats. Par contre, il y aura un très grand format qui sera installé ensuite. Et qui sera pérenne, lui ?
Oui, l'arrivée du train sur la Belle de Mai, qu'on verra de l'arrivée des trains à la gare de Marseille. Et d'ailleurs, c'est le regard du père de cette femme qui avait choisi la porte d'Alger. Elle n'avait jamais vu cette photo. Elle est elle-même repartie dans sa famille, essayer de retrouver une image. Et c'est ce regard-là qu'on a choisi, qui symbolise un peu finalement cet inconnu qui, pour le coup, lui, n'a jamais mis le pied à Marseille, mais dont ses descendants aujourd'hui vivent ici. Et il y a toute cette idée qu'il y a des gens qui arrivent à Marseille, qui repartent, il y en a d'autres qui arrivent là et ensuite qui restent à vie. C'est ce passage-là. Donc, je suis ravi qu'une œuvre pérenne puisse exister près d'une gare, c'est beaucoup plus symbolique.
On l'attend avec impatience. Peut-être sur cette question de l'échelle urbaine, un rebond autour de cette table. Stéphane, par exemple, Stéphane Chanclan, est-ce que le grand format, c'est toujours l'échelle urbaine ou bien pas forcément ?
Le grand format physique, non, pas forcément. Par contre, je trouve que le grand format en termes de durée, pour moi, il fait partie de l'échelle de la ville. C'est-à-dire que j'y arrive pas à faire un projet en peu de temps. Il faut le temps de voir, de comprendre, de rencontrer, de se tromper, de tester, et puis ensuite de décider quelque chose. Moi, la grande échelle est plus de durée que physique.
Une échelle temporelle plus que spatiale, finalement. Alors, les photos souvenirs, les souvenirs associés à un lieu, les souvenirs individuels, intimes, transformés par l'artiste en récit collectif, comme Hervé Lelardoux le pratique dans le cadre du projet qu'il mène à Aubagne. Hervé, tu diriges le Théâtre de l'Arpenteur avec Chantal Gresset pour y développer au fil des spectacles une démarche qui est celle de la ville invisible, référence évidente au bouquin d'Italo Calvino, bien sûr, mais surtout mise en lien de la géographie d'une ville, sa géographie matérielle, avec la géographie intérieure, intime, de ses habitants. Hervé, quelques mots sur cette conviction qui est, je crois, souvent la tienne, que c'est avec de l'intime qu'on produit du collectif. Hervé Lelardoux.
Oui, moi j'ai mené pas mal de projets pendant des années sur des spectacles de théâtre urbain un peu classique, investissant des lieux et détournant ces lieux et les transformant et injectant du théâtre dans des lieux de façon spectaculaire. Puis à un moment, je me suis posé la question de comment s'adresser à la ville autrement que par la dimension spectaculaire habituelle. Et j'avais créé un premier spectacle qui était basé sur le principe de la rumeur, en fait, où on avait créé, c'est assez ancien à Rennes, un événement avec la complicité des médias rennais pour introduire une fiction dans la ville au quotidien, c'est-à-dire que les gens, en ouvrant leur Ouest France, hein, le journal que tous les Rennais lisent le matin, sans le savoir, lisaient en fait une fiction et pensaient lire un fait divers réel, qui était toute une histoire de tableaux qui s'effaçaient dans un musée à Boston et dont des traces auraient été retrouvées à Rennes. Et voilà, donc ça a été tout un projet, je ne vais pas le raconter maintenant, mais où je me suis rendu compte qu'effectivement cet événement qui se passait à Rennes, lié à un événement international, puisque c'était un musée de Boston qui était concerné. Tout d'un coup, la ville l'ensemble de la ville était concerné par rapport à ta question tout à l'heure sur la prise en compte d'un ensemble de la ville. Voilà un événement théâtral qui tout d'un coup a fait que tout d'un coup la ville elle-même était au centre de l'histoire et donc les Rennais par le fait également. Et puis progressivement, je me suis un peu éloigné de cette dimension très spectaculaire, puisque le spectacle dont je parlais se terminait par un grand événement qui se passait dans un tunnel sous la ville, sur une rivière, etc. Progressivement, j'ai continué à m'intéresser à cette question de prendre la ville dans sa globalité comme sujet de mes spectacles. Depuis 1998, tous mes spectacles traitent de la ville, mais en recroisant le texte d'Italo Calvino, comme tu le disais, je me suis penché sur la question de la représentation de la ville, mais par son côté intime, par son côté sensible, c'est-à-dire par la perception que chacun en a. Et c'est à partir de là que j'ai plongé dans cette dimension de la ville invisible. Et depuis 1998, je ne travaille plus que sur cette question, comme tu disais, de la géographie intérieure. C'est très simple, hein, la ville invisible, c'est la ville qui nous habite. C'est la ville qu'on porte en soi. C'est la représentation que chacun a de sa ville, c'est-à-dire ce que j'ai appelé sa géographie intérieure. Donc voilà, c'est en explorant ces géographies intérieures des individus que petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, à partir du moment où cette vision intime, subjective des individus d'une ville s'exprime, donc une sensation, une mémoire qui se partage, on s'aperçoit très vite qu'effectivement, on est dans la mémoire collective.
Concrètement, à Aubagne, ce que tu proposes comme dispositif, c'est d'interroger les habitants qui le souhaitent et de recueillir leurs souvenirs associés à un lieu de la ville. C'est ainsi que tu construis le récit qui va devenir la ville invisible à Aubagne ?
Oui, enfin ça c'est oui effectivement l'entrée dans le projet pour concerner pas mal d'habitants. Hein, comme je le disais tout à l'heure, le projet d'Aubagne, c'est de prendre la question du tramway. Donc nous, on s'est penché sur le tracé du tramway. On s'est rendu compte que c'est une ligne sur une carte qui traverse la ville et qui traverse tous les types de quartiers de la ville. Donc en ce sens-là, c'était une ligne intéressante pour aborder cette ville-là. On a donc demandé tout simplement aux gens de nous raconter un instant vécu par eux sur ce tracé. Donc on a réalisé une carte, on a réalisé un formulaire qui a été distribué largement et rempli par pas mal d'Aubagnais, où chacun pointe un endroit de cette ligne sur la carte de leur ville et chacun évoque un instant vécu ou un souvenir précis à cet endroit-là. Donc c'est une matière qui se récolte depuis le mois d'octobre-novembre 2012. Donc on a déjà beaucoup de matière. C'est une partie du travail que nous menons et qui va effectivement, au final, avec d'autres actions que nous menons, d'autres spectacles que nous présentons aussi au cours de l'année à Aubagne, d'autres façons de rencontrer les gens, tout simplement. Effectivement, progressivement, nous accumulons une matière qui devrait, au mois d'octobre prochain, donner lieu à un récit qui sera mis en scène sur le parcours.
Comment est-ce que tu élabores précisément ce récit à partir d'une multitude de récits ? Comment est-ce que tu procèdes ? Est-ce que c'est un travail de synthèse, fabriquer des personnages à partir d'une multitude de personnages ? Comment est-ce que ça se passe quand tu construis ce récit, Hervé Le Lardot ?
Ben, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que tel que tu me le demandes, c'est comme si j'en avais l'habitude. En fait, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille d'habitude. C'est-à-dire que jusqu'à présent... J'ai mené depuis très longtemps ce travail sur la ville invisible, comme je l'exprimais tout à l'heure, mais en dissociant bien une partie qui était plus une partie production de création théâtrale menée par l'équipe de l'Arpenteur et écrit par moi pour la plupart, et un travail mené avec les gens qui effectivement croisaient, mais que je dissociais très nettement dans un premier temps, dans les premières années où j'ai travaillé sur la ville invisible. Depuis, il y a eu des expériences qui ont permis petit à petit de croiser effectivement la création d'un spectacle, d'un événement artistique et les gens. Par exemple, le premier travail, c'est que travaillant sur la ville invisible, j'ai eu envie évidemment de travailler avec des non-voyants et j'ai mené un projet d'exploration de la ville invisible vue par des trois aveugles à Rennes. Donc le projet est très simple à raconter. On a préparé longuement avec chacun des non-voyants ce travail et au final, très simplement, on a marché dans la ville de Rennes avec un micro ouvert, un aveugle marcher avec un voyant, un comédien ou une comédienne, et un binôme, donc se déplacer dans la ville et sur un tracé qu'on avait plus ou moins évidemment préparé avec le non-voyant, il nous emmenait dans sa ville et on enregistrait ses paroles, les sons de la ville, le dialogue avec le voyant. Et je me suis aperçu, mais après coup, que c'était la première fois que la matière première de mon spectacle, c'était la parole d'individus citoyens de la ville et non pas une écriture. Donc c'est comme ça que petit à petit, on a intégré dans nos spectacles la parole des habitants. Mais c'est un processus qui est différent à chaque projet. Et j'avoue que pour Aubagne, je n'ai pas encore la solution exacte.
Alors, il reste souvent de ces arpentages de l'arpenteur des traces spectaculaires, mais aussi parfois des traces sonores. Et j'aimerais peut-être que tu parles d'un aspect du travail que tu es en train de réaliser au Bagne, qui s'appelle Walkman. C'est le troisième du nom, et c'est une, et ça nous intéresse évidemment beaucoup, c'est une promenade sonore. Hervé ?
Oui, ça fait maintenant 13 ans que j'ai imaginé ce travail de parcours sonore. C'est parti toujours de l'idée de s'adresser à l'individu. Et donc, j'ai eu l'idée en 2001 de créer un spectacle pour un seul spectateur dans la ville, dans cette approche dont je parlais tout à l'heure, d'une approche intime de la ville. Et donc, j'ai utilisé le média ou l'objet Walkman. Je pars souvent d'une situation très classique dans la ville pour démarrer mes spectacles, comme point de départ. Là, c'est vraiment une situation basique de quelqu'un qui marche seul dans la ville avec un Walkman. Donc j'ai imaginé ce spectacle qui est une forme théâtrale pour moi en fait, hein, et qui est aussi une mise en évidence ou une mise en scène de ce que je considère être le théâtre ou toute œuvre d'art, c'est qu'elle s'adresse d'abord à un individu avant de s'adresser à un ensemble. Donc c'est ça, c'est la subjectivité de chaque spectateur qui m'intéressait d'interroger. Et donc voilà, j'ai proposé une expérience qui est à la fois théâtrale, mais aussi une expérience de vie, puisque le spectateur est absolument seul pendant une heure dans cette expérience théâtrale. Ensuite, on a décliné ce spectacle avec le spectacle qui s'appelle Walkman 2, pour le coup, qui était donc, comme je le disais à l'instant, avec les non-voyants. Donc on a enregistré avec les non-voyants cet arpentage, déambulation, flânerie dans la ville, comme je le disais, et le public l'écoutait dans le noir total pendant 1h20, la déambulation d'un aveugle et d'un voyant ensemble dans la ville avec des petits formats de 20 minutes chacun. Et le troisième Walkman, c'est celui qu'on a présenté en fait à Aubagne au mois de mars dernier, qui s'appelle Walkman 3, qui est un concept un peu différent, puisque j'avais envie de renouer avec la question du public, c'est-à-dire de remettre les gens ensemble, mais avec une écoute individuelle, ce qui est encore une fois une façon de montrer que pour moi, un public, c'est d'abord ces gens qui sont ensemble, mais chacun écoute à sa façon. Donc chaque spectateur, 12 personnes, partent ensemble dans une déambulation nocturne, cette fois d'un centre-ville. Et là, on l'a fait à Aubagne. Alors, la question du temps de la ville et la question du rapport au temps, parce qu'on dit souvent que je travaille sur la mémoire et les souvenirs, mais la mémoire ne m'intéresse pas tant pour qu'on réévoque le passé ou encore moins la nostalgie où c'était mieux avant. Pour moi, la mémoire, c'est vraiment, n'est pas là pour restituer le passé, mais plus pour nous constituer dans le présent en tant qu'individu, mais aussi collectivement. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure dans cette façon d'amener à Aubagne, on organise des soirées troc de mémoire, par exemple. Troc de mémoire à partir d'un fait raconté par une personne, comment tout d'un coup tout le monde a quelque chose à dire finalement sur cette chose-là. Donc le Walkman 3 sur la question du passé, du présent et du futur, c'est un spectacle très simple où 12 personnes vont marcher dans la ville un soir, là c'était au mois de mars 2013, mais en fait un guide, comme c'est un peu comme une visite touristique ou comme un musée qu'on visite avec un audio guide.
C'est une sorte d'audio guide finalement.
C'est vraiment un détournement du principe de l'audio guide de musée. On visite sa propre ville le soir quand elle ressemble un peu à un musée avec des éclairages, etc. Bon, les rues sont vides, les façades sont éclairées, tout d'un coup c'est une espèce de musée. Et donc les spectateurs, on leur a proposé une règle du jeu au début et on va la tenir jusqu'au bout et c'est très simple et ça marche très bien. C'est que les gens vont visiter leur ville avec les yeux de touristes qui arrivent du futur. Donc on va visiter finalement notre présent d'aujourd'hui, mais le guide va nous expliquer comment c'était en 2013. C'est par exemple un exemple très simple que tout le monde comprend et qui est le point de départ du spectacle. On leur montre en centre-ville, on leur dit « Regardez, il y avait encore des voitures en centre-ville. » Vous ne pouvez pas comprendre, vous qui arrivez du futur, etc. C'est-à-dire qu'on regarde la ville en expliquant aux gens qui viennent du futur ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est-à-dire ce qui va disparaître ou ce qui va changer. Donc c'est un regard sur le présent, mais en travaillant sur ce côté vision, vue du futur.
Alors une réalité très concrète à la réalisation de promenades sonores, puisqu'il se trouve, et vous le savez sans doute, que Radio Grenouille en produit aussi un certain nombre, dont une d'ailleurs en collaboration avec Hervé Lelardoux sur le site promenade-sonore.com. Vous pouvez les retrouver et les pratiquer. Une des réalités concrètes à laquelle nous avons tous été confrontés, c'est la réalité du timing de cette promenade. Cette question de la temporalité de la fabrication d'une promenade sonore, c'est une redoutable difficulté, Hervé.
Oui, 13 ans d'expérience, on est à peu près capable de dire aux gens, alors que tout est enregistré, attention à la marche. Le principe de tout le travail sur la ville invisible, c'est de partir d'abord de ce que j'appelle la ville à l'état brut. Hein, après avoir fait des spectacles, comme je le disais, très spectaculaires, où on amenait des décors, des costumes, des sons, des lumières, des comédiens, etc., dans les spectacles de rue, dans nos spectacles de rue. Maintenant, on travaille sur la ville à l'état brut, c'est-à-dire qu'on prend la ville comme elle est, c'est-à-dire comme elle sera au moment où le public sera là. Ce que je veux dire, c'est qu'on, dans nos projets, on prend en compte la mise en situation du public fait partie du jeu. Il y a des façons, effectivement, si on veut parler de cette question très technique du timing, de mettre en situation les gens régulièrement, de telle sorte que sans qu'ils s'en rendent compte, en fait, on maîtrise parfaitement leur déplacement, quoi.
Vous écoutez toujours Vue du Large sur la Grenouille, enregistré ce dimanche 12 mai au J1 et en public. Quatrième approche maintenant de ces représentations croisées entre l'art, l'artiste, la ville et ses habitants. avec cette ruche artistique qui est devenue l'Abeille, cité ouvrière de la Ciotat. Et la reine des abeilles, c'est Martine Derain, plasticienne. Bonjour Martine, je te propose, avant qu'on parle un petit peu de ce que tu es en train de développer dans la cité de l'Abeille, qu'on écoute un petit bout de son enregistré il y a quelques temps. C'était en novembre dernier, au Polygone étoilé.
C'est effectivement la situation réelle, c'est-à-dire que ce qu'on donne à voir dans cette étape-là du travail, hein, c'est qu'on se trouve en face, on débarque, on se trouve dans une cité, personne ne nous connaît, on ne connaît personne, et c'est pendant un an et demi, quelque chose peut ou peut ne pas se dérouler. Ce que vous avez vu là, c'est chaque personne qui passe, il y a une caméra Super 8 sur la table avec des films, et il peut chroniquer, ce qu'on appelle chroniquer sa visite. Le premier film qu'on voit, hein, c'est la voie ferrée qui passe le long de la cité. Les premiers amis qui maintenant travaillent là-bas découvraient ce jour-là la cité, arrivent par la voie ferrée, comme on arrive à la Ciotat quand on fait du cinéma, on descend du train, se promènent, marchent, déambulent. Les habitants ne viennent pas spontanément nous accueillir, nous ouvrir leurs appartements, dire on veut faire du cinéma. Non, c'est absolument pas comme ça. Donc ce que vous voyez, c'est les traces de la première rencontre, tu vois, c'est comme les Américains qui débarquent sur la Lune, les explorateurs des forêts africaines qui débarquent dans une tribu en échange de la verroterie. Hein, on leur a amené toujours de la verroterie, donc nous on fait pareil, on amène de la verroterie.
C'était un endroit sauvage, l'Abeille.
Je pense à quelqu'un qui disait les sauvages sont ceux qui considère qu'il y a des sauvages. Donc on commence à mettre en place des processus de ce que Jean Rouch appelait les objets inquiétants. Ben, nous sommes les objets inquiétants de la cité.
On écoutait Jean-François Néplaz enregistré en novembre dernier au Polygone étoilé à l'occasion d'une projection de rush ou de premier montage des films que vous réalisez en ce moment même à la Ciotat. Sur cette dimension d'inquiétude que provoquent les artistes quand ils débarquent dans une cité, Martine Derain, un rebond ?
Mais je pense que ça va me donner l'occasion de parler quelque chose. En fait, je trouve que les habitants ne sont pas du tout plus inquiets que ça. Je dirais qu'il y aurait peut-être plus d'inquiétude de la part des institutions et des structures sociales qui, elles, travaillent depuis bien longtemps sur le quartier, et nous qui sommes tout neufs et étrangers. C'est peut-être là où il y a de l'inquiétude sur ce qu'on va faire et sur ce qu'on est. Cerner un petit peu le champ d'action des artistes, qu'est-ce que c'est un artiste et qu'est-ce que ça peut. Je dirais que l'inquiétude, elle est plutôt là. Après, nous, effectivement, on a choisi à l'Abeille de transformer rien du tout, mais de prendre la cité comme un atelier permanent de création. On y est extrêmement souvent, sans doute parce que c'est très proche, hein, on est Marseillais presque tous, on y va tous les jours. Voilà, c'est de mettre en jeu. J'avais pas vraiment de projet, et moi je remercie Marseille 2013 d'avoir accepté quelque chose qui n'était pas un projet. Juste, j'avais envie de venir dans cette cité en ramenant toutes les choses que je traverse et tous les gens avec qui je les traverse depuis des années. On est dans une cité, on a très peu parlé des lieux tels qu'ils sont là sur nos quartiers. Moi, c'est une très belle cité, vraiment, je vous invite tous à y venir. Une grande cité ouvrière, construite pour les ouvriers du chantier naval, mais donc complètement arrêtée, je dirais, après la chute, la fermeture des chantiers. Et quand je suis arrivée là, il y a 2 ans à peu près maintenant, c'était ce désir de changement que manifestait tout le monde et ce désir de mouvement. Alors je me suis dit que la seule chose que j'avais à faire, moi, c'était de commencer. On parle comme ça, très doucement, très gentiment, mais c'est très violent ce qu'on vit dans ce dispositif quartier créatif. C'est un dispositif des plus décriés de la capitale. Je trouve que ça serait très important un jour de faire quelque chose sur cette violence-là et pourquoi ce programme est très décrié.
Peut-être justement ça, on pourrait le demander à Stéphane Chanclan et à Hervé Lelardou. Est-ce que vous avez, vous aussi, ressenti cette violence que décrit à l'instant Martine Derain ? Hervé Lelardou.
De violence, non. Moi, je n'ai pas ressenti vraiment de violence directement, mais beaucoup de difficultés à aller jusqu'aux gens, quoi. beaucoup de difficultés à les rencontrer. Au final, quand on arrive à rencontrer les gens, ça devient, tout devient possible. Mais énormément de temps consacré à tisser des réseaux pour, quand on vient de l'extérieur, avec une culture plutôt du Nord en plus. Donc à pénétrer comme ça une ville qui m'était inconnue et à aller jusqu'aux gens, très difficile, très long, extrêmement long.
Stéphane Chanclan ?
La violence, c'est plutôt ce qu'elle génère chez nous qui sommes confrontés à une forme d'inertie qui est quand même forte de la part de personnes qu'on imaginait au début être nos premiers collaborateurs, vraiment nos partenaires, ceux avec lesquels on allait pouvoir faire ce qu'on espérait faire. C'est vrai que chez moi, ça génère beaucoup de violence de voir des gens ne pas se saisir d'une chance qui est ce qu'apporte une dynamique artistique dans une situation qui est verrouillée parce que chacun y occupe une place définie. Et ça, la chance du projet artistique, c'est que ça fait bouger les lignes. Et la violence vient de « mais pourquoi est-ce qu'on ne se saisit pas de cette chance-là »
Alors à La Ciotat, incarner, ramener des corps dans les rues un peu désertées avec la compagnie Ex Nihilo, faire résonner les murs de murmures musicaux, mais aussi, et sans doute faut-il dire surtout, faire du cinéma avec les habitants, un cinéma comme on n'en fait plus maintenant, un cinéma clair, pur, spontané. C'est un peu l'esprit des groupes Medvedkin revisité, Martine Derain.
Non, alors je devrais, c'est pas à moi de parler du cinéma, donc je pense qu'il faudrait peut-être passer
si
la parole
Jean-François
à Jean-François.
Desplaces veut bien venir nous rejoindre.
Donc je reprends juste un peu le fil. Moi, j'avais pas de projet en arrivant, sinon celui d'y venir dans cette cité et de mettre, je dirais, nos créations passées, ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà fait ailleurs, vraiment en chantier dans la cité. Comment est-ce que nous allons nous faire bouleverser, nous les artistes, et comment sans doute allons-nous bouleverser peut-être les habitants qui vont le faire avec nous. Donc ça a été un petit peu le postulat de départ. Alors on est resté très seul pendant un an avec Jean-François et quelques-uns des cinéastes. Parce qu'on avait proposé quelque chose qui nous semblait pertinent, qui était de faire des ateliers cinéma, comme Film Flamme l'est fait. À part que ces ateliers-là, faire du cinéma aujourd'hui à La Ciotat, ça n'intéressait strictement personne. Donc là, ça nous obligeait quand même à bouger totalement. On avait plutôt l'idée comme ça de créer de la matière avec les habitants, puis de l'utiliser sous forme de fiction. Mais n'ayant pas eu d'habitants, et je pourrais parler longtemps sur pourquoi ils ne sont pas venus ou pourquoi les quelques partenariats esquissés avec le centre social n'ont évidemment rien donné, puisque on vit à peu près la même chose que ce que décrit Stéphane. Alors ce qu'on a fait, c'est de nous se mettre au travail dans la cité et puis d'arriver avec ce qu'on avait envie d'y faire, parce que cette cité nous donne beaucoup d'idées. Et d'y faire du documentaire. Enfin, il y avait quelque chose qui était revenu très souvent pendant l'étude et ma première période là-bas, qui était que les gens avaient tout dit. Ils me disaient tous, j'ai tout dit de ma vie, j'ai tout dit de mon passé, de ma famille, de mon père, de ma mère. Donc, je me suis dit, puisqu'ils ont déjà tout dit, on va plutôt partir sur autre chose. Et nous sommes tous partis sur des fictions. Cette cité avait vraiment le génie de nous donner envie d'inventer des histoires. Il y a une fiction qui me plaît beaucoup, qui est celle de Déméter, vous savez, cette déesse grecque. Et il suffit à l'abeille de se mettre une petite toge, un petit tissu blanc pour être acteur dans la comédie de Raphaël Popperborn, qui est cinéaste du collectif, et puis d'inventer ensemble. Et je dirais que quoi qu'on projette, nous les artistes, ce qu'en font les habitants, c'est toujours une déviation, c'est toujours un autre chemin. Et ça, c'est énorme dans la création.
Alors on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau et qui vient remplacer sur sa chaise JR qui a dû repartir vers ses collages d'affiches. On a le plaisir d'accueillir Jean-François Desplaces. Donc à l'instant, Martine Derain parlait de fiction. En même temps, ce sont des fictions qui documentent extraordinairement bien le quartier. Et c'est vraiment des films qui explosent complètement la différence qu'il pourrait y avoir entre le documentaire et la fiction. Jean-François.
Je ne sais pas si le cinéma a été un jour du documentaire et de la fiction. En tout cas, on ne s'est jamais posé la question. C'est peut-être pour ça que le cinéma ne s'est jamais posé la question. C'est-à-dire les frères Lumière, qui aurait inventé le documentaire et Méliès la fiction. C'est une fiction en soi. Par contre, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'à l'endroit où l'opportunité nous est donnée de rejouer la naissance du cinéma, au moment où il meurt, c'est-à-dire La Ciotat, hein, en 2013, le moment où le cinéma perd sa mémoire, où on le liquide complètement. C'est drôle d'entendre parler cet enjeu de la pérennité, hein, cet enjeu de la mémoire. On rend par le passage au numérique toute la mémoire du cinéma, on l'efface, on ne pourra plus la diffuser. Donc le cinéma, mémoire pérenne du mouvement, n'a maintenant plus d'histoire. La plupart des cinémathèques vont disparaître. Et on s'intéresse à cette question de la mémoire. Non, on ne s'y intéresse pas en tant que tel, c'est pas vrai. Et ce qui s'est passé à La Ciotat, c'est qu'on a pu rejouer avec les habitants, à l'endroit originel, une renaissance possible du cinéma. Rejouer la naissance et faire envie, c'est-à-dire qu'on s'est installé dans la cour de l'immeuble et qu'on a joué comme avec les instruments, avec les caméras, etc. Et là, des gens sont venus parce qu'ils avaient envie. Et c'est cette envie-là qui est l'envie d'origine du cinéma. On ne forme pas des spectateurs, on forme des acteurs.
Alors, est-ce que vous avez des questions, des réflexions, des rebonds vis-à-vis de ce que vous venez d'entendre? Oui, peut-être monsieur.
Deux questions sous forme de réflexion aussi. La première, ça concerne ce que Martine Derain a évoqué, à savoir ce qui serait ou ce qui y est, cette forme de violence contre les projets quartiers créatifs. Alors, si je m'autorisais à me faire l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas aussi cette impression que les habitants ou certains d'entre eux servent ou serviraient, donc le conditionnel est important, d'alibi à cette immense opération MP 2013 qui génère beaucoup de millions d'euros et dont le quotidien, quelle que soit la qualité, je précise, de l'artiste ou des artistes, n'est pas influé de manière durable par les projets, aussi intéressants soient-ils?
Alors peut-être Martine Derain pour commencer à vous répondre.
La première, les habitants comme alibi. Je pense qu'on ne fait pas ce qu'on veut et que les habitants ont une grande capacité de résistance et de détournement à toute forme d'utilisation. Enfin, je pense que voilà, on ne s'en sert pas comme ça. Après, Marseille-Provence 2013, bon voilà, c'est un événement culturel, on sait tous, et d'aménagement du territoire, hein, on le sait très bien aussi. Nous qui sommes envoyés à l'insu de notre plein gré, je crois, dans les quartiers, cette chose qu'on appelle maintenant les quartiers, entendu les quartiers populaires, c'est devenu comme quelque chose de générique. Effectivement, nous avons... dans la commande des contraintes qui sont celles d'interroger le processus de rénovation urbaine. Alors effectivement, c'est une drôle de place, c'est un drôle d'endroit pour travailler. Maintenant, moi, j'aime les endroits complexes et je peux vous assurer que c'en est un. Il y a un artiste avec Hendrik Sturm, avec qui tu travailles, Hervé, qui disait que les quartiers créatifs avaient éclairé de façon extrêmement... je ne sais plus si c'est son mot cruel, le paysage politique. Et c'est vrai que nous qui sommes dans les quartiers, donc depuis 2 ans maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est la fin d'un système, c'est 30 ans de politique de la ville, qui certes ont apporté des choses, etc., mais une inertie complètement faramineuse, une territorialisation des problèmes sociaux, avec une territorialisation des politiques publiques sur les quartiers. Moi, à l'Abeille, il n'y a pas eu d'artiste depuis 30 ans. Quand on arrive à ce moment-là, il n'y a pas eu d'artiste et qu'on doit dire ce que c'est, ou qu'on doit essayer de faire sentir cette liberté-là que nous pouvons avoir, c'est pas si simple. On doit d'abord démonter énormément de choses, démonter de l'art utilisé comme fonction, c'est-à-dire que les activités sociales utilisent souvent comme alibi, là, pour de bon, des formes artistiques que personne ne maîtrise exactement ou ne connaît. Et on arrive, nous, après tout ça. Donc, je crois que c'est un gros boulot, je crois que c'est un lieu complexe, et ce dispositif quartier créatif. Je pense qu'on est totalement libre. Et moi, je tiens à le dire que dans ce truc... dans ce grand Barnum de 2013, nous sommes totalement libres dans les quartiers créatifs. Enfin, moi, je le suis. Libre dans les contraintes, évidemment. Et je crois que les cinéastes le sont. Je crois que les danseurs le sont. Donc voilà ces endroits extrêmement, je dirais, à mille feuilles de sens politique. Ce sont des endroits de liberté. Et je comprends ce que tu dis sur ne pas rater cette chance. Pour moi, c'est une chance. Et je pense que pour ceux avec qui on s'amuse dans la cité, c'en est une aussi. Après, ça a le don d'en déranger beaucoup, et d'en déranger notamment des gens qui ne travaillent plus dans les quartiers. quand je parlais de violence, c'était aussi sur l'argent. Moi, j'ai eu beaucoup. Vous avez beaucoup d'argent dans les quartiers créatifs, vous en avez même trop. Sauf que souvent, ça m'était dit au cadre, dans le cadre de certaines réunions d'acteurs sociaux. Et si on mettait dans la balance le poids des salaires et le poids des charges sociales, depuis 10 ans que ces gens-là travaillent dans la cité, je crois qu'on s'est bien mis d'accord et c'est une question qu'on m'a plus posée après. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on doit affronter au quotidien. Et puis aussi, il faut le dire, tout le monde n'a pas envie de faire de l'art et on s'en prend plein la figure, il faut quand même le dire. C'est très long, je vous parlais de ces 30 ans de désert artistique, il faut marcher longtemps dans le désert avant de redonner de l'envie à quelque chose et puis que certains les attrapent. Nous, on s'est mis... pas du tout sur la mémoire, tout ça. On a décidé de joindre nos folies douces aux folies douces des habitants. Et croyez-moi, la barre, elle est assez élevée à la Cité de l'Abeille. Voilà. On cherche la création chez les habitants, mais tout est là, je dirais. L'espace politique, l'espace social, tout ça est coincé, mais à en mourir d'ennui, à en mourir de manque d'imagination. Voilà, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de remettre un petit peu tout ça en route, et nous, par la même occasion, et surtout, enfin, quoi qu'on ne l'était pas, arrêter, mais d'enclencher quelque chose. Moi, à l'Abeille, c'est vraiment un début, même s'il y aura évidemment des formes, et pas rien, il y aura 4 courts-métrages, dont un long, il y a des dizaines de films de 3 minutes, il y a 3 chorégraphies, il y aura un livre, il y a de la peinture, de la photographie, des récits. Voilà, donc on produit énormément. Tout ça est pour moi un début. On est plusieurs à avoir envie de continuer à travailler là-bas, donc à monter dès à présent des dossiers pour continuer, pour avoir un peu d'argent après MP13. Pour moi, MP13, c'est un enclencheur de quelque chose dans ces quartiers-là. Voilà, à nous maintenant de s'en saisir.
Merci, merci à tous. Ainsi s'achève cette 3e émission de Vue du Large. Prochain rendez-vous après l'été, puisque le J1 va bientôt, faute de clim, fermer ses portes pour la saison estivale. Merci aux participants de cette émission, Martine Derain, Hervé Lelardou, JR et Stéphane Chanclan. Merci aux équipes des actions participatives et citoyennes qui participent à leur organisation. Merci à Sébastien Gély et à Jean-Baptiste Humbert qui ont assuré la régie de cette émission. Et je voudrais, en guise de conclusion, dédier à Gaby Farage, porteur du projet Vitrolles Échangeurs, disparu il y a presque un an, le 24 mai 2012, cette émission, celle qui précédait et celle qui suivront. Merci à tous.
J'essaie de dessiner ce que je vois. Je vois moi.
Ils n'ont pas de feuilles.
Nos os. Une grue.
Elle a dessiné des arbres et elle a gâché tout le monde.